traffic, transit, and weather.
Circulation de Québec pour faciliter la fluidité.
Ouais, passez proche, je peux faire déjouer là, Dom. La tête des ponts, si vous êtes sur la rive sud, c'est ce qu'on surveille principalement là. C'est compliqué. Rajouter à ça, sur un accrochage, ça semble assez. Assez majeur sur la rue de la Rotonde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là. Il y en a même deux. Beaucoup de gens qui passent par là pour aller chercher l'autoroute 73. Ça va causer des ennuis. Et la 73 qui, déjà, à la base, est complètement jammée, là, justement, à la hauteur de la Rotonde. C'est rouge, rouge, rouge jusqu'à la tête des ponts. Compliqué également vers Est et vers Ouest. L'accès aux pompières à la porte, ce matin, vous allez gagner votre ciel. Dans le secteur Saint-Augustin, maintenant, sur la rive nord, dans le croche qui s'en va vers la sortie, chemin du lac, c'est par choc à par choc. Par contre, ça reprend de plus belle avant de retourner au ralentissement à peu près à la hauteur du IKEA et ça reste ainsi jusqu'à Saint-Sacrement. Henri IV, direction sud, c'est compliqué à deux endroits. Premièrement, dans le secteur entre Sainte-Geneviève et Capitale, le secteur Val-Bélair, le secteur Ancienne-Lorette-Neuchâtel et ça reprend de plus belle dans la côte à cause des travaux. C'est sûr que c'est assez costaud puis ça va rester comme ça tout l'été. Capitale dans les deux directions, c'est lourd. La colline parlementaire, c'est encore tranquille à l'heure qui est. 418-670-9098 pour nous dire ce que vous voyez sur les routes et cette semaine. Chez Métro, ça sent la coupe de bœuf. Les rabais continuent avec le beefsteak français à 6,99 la livre ou 15,41 le kilo. Boum! Dans le panier chez Métro.
Morée.
Ça va bien aller?
Live.
Toujours, toujours, toujours.
Avec Dominique Morée.
Ouais. Ça va bien aller?
Live.
Radio X.
On n'a pas de thème encore pour Guillaume, mais c'est pas grave, ça s'en vient. De toute façon, Guillaume, officiellement, sera de la nouvelle saison qui n'est pas commencée, mais je suis tellement en avance. La nouvelle saison qui va débuter autour du 10 août. Je suis vraiment en avance, là. On est le 28 avril. Ouais. On se calme les nerfs.
C'est comme si McDavid portait déjà le gilet des Maple Leafs.
Guillaume Rousseau, salut, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Très bien. On revient sur le panel Arsenault à Radio-Canada. Un délire, un délire et une élucubration incroyable. Dimitri Soudas reprend même notre formule Wo-Canada. C'est du wokisme bien, bien concentré. On écoute un extrait du gars qui s'appelle Brouillette, là, que je connais pas pantoute, mais on tenait à dire que tu étais à côté et t'as répliqué. Et tu le feras live juste après ceci.
Par exemple, on parlait des nouveaux médias, le phénomène Tradwives est énormément présent. Donc, ces personnes peuvent peut-être vouloir avoir des enfants, mais derrière ça, qu'est-ce qui est en opération, qu'est-ce qui se trame? C'est cette idée selon laquelle le socle inamovible, si on veut, de la société, qui rend possible la nation, c'est la famille. Une famille qui est très souvent quand même hétéronormative, mais au-delà même de ça, une famille qui est fondée sur le fait de produire des enfants, parce que dans nos sociétés, la production est essentielle, la croissance, et cette croissance, cette fertilité, si on veut, économique, ben, elle se répercute aussi sur la manière dont on pense le rôle des femmes. Ben, je pense que là, ici, le PQ devra préciser qu'est-ce qu'il entend par politique nataliste. Parce qu'au contraire, même dans un enjeu écologique, il y a des gens qui vont soutenir l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas augmenter la population, mais viser une dénatalité pour viser la décroissance.
Alors, on est pas... Première des choses, on est pas mal dans dénatalité au Québec. Là. Il y a eu d'ailleurs un cycle négatif. C'est rare qu'on voit ça. Plus de morts que de naissances, je crois que c'est l'année passée ou l'année d'avant. Première des choses. Deuxième des choses, quand on l'écoute comme il faut, on a quasiment l'impression qu'il dit à ses parents « Vous n'auriez pas dû m'avoir. » C'est complètement débile comme discours, mais je tenais à te donner la tribune, Guillaume, ce matin, parce que tu as réagi. Et on n'entend pas ta réaction dans les vidéos qui circulent. Puis, prends tout le temps. Ta réaction, quand tu entends ça, c'est quoi?
Ben, en fait, c'est ça. Moi, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on est deux chroniqueurs. Moi, je suis là pour ma chronique après, qui était sur le livre d'Éric Duhaime, mais on m'a quand même annoncé d'avance le sujet de Xavier Brouillette. Mais honnêtement, c'est un sujet que je connais assez bien, la question de la natalité, mais je pensais pas qu'il irait aussi loin dans ses critiques. Là, je me doutais que, bon, ça allait peut-être être une critique de la position du Parti québécois, mais je pensais pas que ce serait si radical, mais je connaissais quand même les contre-arguments à ce genre de discours. L'essentiel du contre-argument, c'est que, en fait, une politique favorable à la natalité peut viser non pas à forcer les femmes à avoir plus d'enfants, mais simplement à leur permettre d'en avoir autant qu'elles le souhaitent. Puis il y a une statistique bien connue qui existe, c'est qu'au Québec, les femmes ont 1,3 enfants en moyenne, alors qu'elles souhaitent plutôt en avoir autour de 2. Donc, clairement, on pourrait avoir des politiques intelligentes, de, par exemple, de baisse de taxes sur certains produits qui touchent les familles, puis permettre aux femmes d'avoir autant d'enfants qu'elles le souhaitent. Quand on est pro-choix, on devrait être pro-choix, y compris pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants. Donc, c'est une réponse qui est facile, qui est bien connue dans la littérature.
Eux autres sont faux choix. Nous, on est pro-choix. Eux sont faux choix. C'est l'avortement ou c'est pas d'enfant. Oui, mais la maman et le papa aussi, il faudrait peut-être en parler, ou la conjointe, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de couples lesbiennes qui choisissent d'avoir des enfants, ce qui est bien extraordinaire aussi, décident d'avoir 3-4 enfants. Mais ça, c'est un choix aussi, Guillaume. Exact. C'est ce que tu dis ce matin.
Ben ouais, c'est exactement ce que je lui réplique. Puis là, sur le coup, il revient à ses arguments. Puis là, puis il dit, ah, mais c'est parce qu'on suppose que les femmes en veulent plus. Je dis, non, on suppose pas. Il y a des statistiques. Là, c'est connu dans la littérature scientifique. Les femmes veulent en moyenne 2 enfants, en ont 1,3. Donc, il s'agit pas de créer des politiques en supposant que les femmes veulent plus d'enfants alors qu'elles en veulent pas plus. On sait qu'elles en veulent plus, qu'elles en conçoivent. Fait, tu sais, j'avais vraiment, je pense, 2-3 bons arguments. Puis à chaque fois, il changeait de sujet. Une fois que je disais une statistique comme ça, il niait pas la statistique parce qu'elle est vraie. Mais là, il disait, ouais, mais là, on suppose que la famille, c'est la cellule de base de la société, ce qui serait mal ou quoi. Fait que, oups, il changeait de sujet. Fait que c'était difficile de vraiment le coincer. Fait que moi, j'ai comme l'impression d'avoir marqué des points, d'avoir sorti des arguments auxquels il répondait pas. Mais en même temps, il changeait de sujet à chaque fois. Fait que c'était peut-être pas spectaculaire. Puis, tu sais, moi, mon style est plutôt courtois. Tu sais, je suis pas là pour hausser le ton ou quoi. Fait que,
enfants, donc, moi, j'irais demander. Donc, est-ce à dire que vous avez forcé votre femme à polluer?
Oui, effectivement, il peut y avoir une contradiction dans le fait d'avoir une position.
Et l'autre chose, c'est qu'est-ce que trop d'enfants? Est-ce à dire également que vous reprochez à vos parents de vous avoir eu? Qu'est-ce que vous dites à votre propre mère?
Maudite pollueuse? Des contradictions dans une position comme ça, c'est clair.
Mais c'est un marxiste. Peut-être exprimer il est assumé, oui. Mais moi, j'assume le fait que je peux le planter aussi. Là. Mais c'est quoi du marxisme? Là? Peut-être marxiste 101, là, pour ceux qui sont... On est en train de manger des céréales le matin. Là. Ça mange quoi en hiver, un marxiste?
Donc, en gros, l'idée, c'est de tout ramener au capitalisme. Finalement, tout serait expliqué par le capitalisme, par les forces de production. Donc, tout ce qui se passe dans la société, là, ce serait, finalement, il y aurait une origine matérialiste, économique. Donc, c'est comme si, puisqu'on vit dans le capitalisme, puis qu'on veut produire toujours plus, ben ça amènerait à des politiques publiques qui forceraient les femmes à produire toujours plus d'enfants.
Donc, l'utérus, évidemment, est une usine dans sa lubie à lui.
Exactement. Puis là, donc c'est ce qui est un peu bizarre parce qu'évidemment, avant le capitalisme, évidemment, les êtres humains se reproduisaient. On sait que il y a une chute du taux de natalité à partir des années 70, alors qu'il n'y avait pas nécessairement un recul du capitalisme. Donc, tout ça est un petit peu bizarre, mais c'est très idéologique. Le marxisme, c'est le matérialisme historique et tout. Il y a toute une théorie derrière ça qui permet penser puis de critiquer, mais en même temps, des fois, on s'éloigne un peu de la réalité. Là. C'est pour ça que quand je lui oppose une statistique, il n'y a pas nécessairement de réponse, parce que souvent, le marxisme, on est plus... C'est une croyance, puis là, les faits donnent parfois tort à la croyance, puis là,
c'est une religion, pour vrai. C'est une idéologie. C'est une forme d'opium. Ça te monte à la tête. C'est une idéologie, mais tu vis dans ton carcan idéologique. Fait que toi, tu contre-attaquais et lui tentait de t'amener ailleurs. Quel était le comportement de l'animatrice?
Ben, là-dessus, je dois reconnaître que c'est vraiment Marie-Louise Arsenault qui me donne la parole. Donc, quand Xavier Brouillette a ces propos-là extrêmement durs, moi, évidemment, mon non-verbal est quand même... d'ailleurs, des amis qui m'ont envoyé des photos où mon non-verbal demande bien que je suis... vraiment, là, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Puis là, à un moment donné, je lève la main ou en tout cas, je fais un signe de j'ai envie de lui répliquer. Et là, Marie-Louise Arsenault me donne la parole. Donc ça, faut le reconnaître. Puis là, évidemment, dans l'extrait, le montage qui a circulé, on n'a ni mon intervention, ni Marie-Louise qui me donne la parole. Donc ça fait mal paraître l'émission. Mais dans l'extrait que j'ai partagé sur mes réseaux sociaux, on entend rapidement, mais on l'entend quand même que Marie-Louise me donne la parole. Puis ensuite, je peux répliquer à M. Brouillette. Donc là-dessus... pour le reconnaître, là, même si elle-même ne le corrige pas ou ne le challenge pas, elle me laisse le faire, ce qui, à mon avis, fait le travail quand vient le temps d'avoir une émission où on souhaite avoir différents points de vue. Là.
Si on veut, comme société, perdurer dans le temps, à un moment donné, on s'en sort pas. Là. Ça prend des enfants. Maintenant, quel est le choix? On en fait ou on en accueille avec du monde qui va en faire plus que nous autres? Il y a deux options, là. Il n'y en a pas 26 dans mon jeu de cartes. Là. On ouvre les vannes. Ce qu'on a fait pas pire, et peut-être même trop dans les dernières années, ou on invite les gens à en faire davantage. Ceci étant dit, on a une liberté fondamentale qui doit être préservée. Mon corps, mon choix. Les femmes qui ne veulent pas d'enfants, c'est parfait en ce qui me concerne. Mais les femmes qui veulent en avoir quatre, avec leur mari et de l'amour, hein? On n'en parle pas beaucoup, mais ça prend de l'amour pour avoir des enfants. Là. Je veux dire, c'est pas juste la mécanique. Là. Donc, c'est ça, dans le fond, l'instinct familial. Il y a deux options. Donc, est-ce à dire que lui, il veut pas que le Québec perdure ou il veut que le Québec perdure juste avec l'immigration?
Oui, bien, effectivement, à un moment de son intervention, il y a un propos sur l'immigration. Il reproche au Parti québécois de faire un lien entre pénurie de logements et immigration là avec des niveaux élevés dans les dernières années.
Il n'a pas tort à 100 % je dois dire.
Non, c'est ça. Après
même Legault disait ça, Guillaume.
Oui, ouais, absolument. Il y a un vrai lien. Bon, là, ensuite, on peut dire que le lien, c'est une inadéquation entre la politique du logement et la politique d'immigration. On peut faire des nuances, mais globalement, il y a un lien immigration-logement. Il y a quelque chose là que M. Brouillette semblait nier. Mais effectivement, moi, je suis de l'école. Oui, ça prend une immigration, un certain niveau, pas trop, assez. Bon, c'est bon. Et ça prend aussi une politique de natalité. T'sais, on peut vouloir les deux. C'est pas un ou l'autre. Je pense que ça prend les deux.
Décide-nous là la politique de natalité. Parce que je pense qu'on va en parler. Duhem dit qu'il va, il a des idées. Il veut driver une partie de sa campagne là-dessus. Il me l'a dit. À suivre, c'est intéressant. PQ, donc nécessairement que la CAQ va devoir se camper là-dessus. Là. Le Québec est en train de mourir. Sacrifice, c'est pas compliqué. Il me semble que c'est un sujet à jaser. Toi, absolument. Je te nomme ministre. Ministre de la natalité. C'est un peu whack, là, mais je te nomme là. Dread sur le fly. C'est quoi ta politique? Politique intelligente. Ben.
Ce qu'il faut, là, c'est aider les gens à avoir un deuxième et un troisième enfant. Parce que si on veut passer de 1.3 à 2, c'est pas les gens. Là. Avoir un enfant, ça se fait bien au Québec. T'sais, on peut être en appartement, un couple en appartement peut avoir un enfant. C'est pas tant un enjeu. Or, toutes les politiques publiques aident les gens qui achètent une première maison. C'est correct. On le voit encore avec Mme Fréchette qui annonce
le remboursement sur la taxe de bienvenue.
C'est correct. Mais moi, ce que je dis, c'est que le défi, c'est pas la première maison. C'est la deuxième, quand on va avoir un deuxième enfant puis un troisième enfant. Puis là, je comprends que des fois, notre première maison a pris de la valeur, mais c'est pas toujours le cas, puis c'est plus dans les grandes villes qu'en région. Alors moi, je pense vraiment là, qu'il faut... Puis en plus, c'est qu'en aidant les premiers acheteurs d'une première maison, bien, ça fait monter dans le marché, ça augmente la demande, au dépens de ceux qui en sont à leur deuxième maison, qui, eux, n'ont pas l'aide du gouvernement. Fait que les politiques pour les premiers acheteurs nuisent, en quelque part, à ceux qui achètent une deuxième maison. Donc moi, je ferais des aides gouvernementale sous forme, par exemple, de congés de taxes, mais pour ceux qui vont acheter une plus grosse maison parce qu'ils viennent d'avoir un deuxième ou un troisième enfant. Donc, il faut vraiment focusser sur le deuxième, troisième enfant plutôt que le premier. Il ne faut pas non plus donner de l'aide à tout le monde. Tu sais, je veux bien là, l'accès à la propriété, mais moi, l'accès à la propriété pour les couples sans enfants, là, ça vient moins me chercher, mettons. Là.
Mais moi, je pense que papa et maman se posent beaucoup de questions à savoir, ouais, on n'a pas de place en garderie déjà pour le premier. On y va pas pour le deuxième.
Ouais.
Il y a ça aussi.
Ça, c'est l'autre affaire. Ouais. Ça, c'est l'autre affaire. Moi, je pense que le RQAP, idéalement, donc l'assurance parentale, ça devrait couvrir le salaire d'un parent, là, qui, parfois les deux, mais surtout un parent qui arrête de travailler parce qu'il y a un jeune enfant. Ça devrait couvrir le salaire. Donc, l'assurance parentale devrait couvrir jusqu'au moment où vous avez une place subventionnée en CPE ou en garderie privée.
Ça dépend de couvrir le salaire. Ben, si la madame est architecte, puis elle va se claquer un salaire de 220 000, là.
Elle a des cotisations en conséquence.
Est-ce que tu modifies, c'est ça ma question, est-ce que tu bonifies le régime? Ouais.
L'idée, c'est que l'assurance parentale couvre une période plus longue jusqu'à ce que le parent ait accès à une place en garderie.
J'aime ton idée.
Ouais. Plutôt que d'avoir un nombre de semaines arbitraire, de dire après un an, c'est fini, OK, mais si après 9 mois, j'ai une place en garderie, j'ai peut-être pas besoin de me rendre à la fin de mon assurance parentale.
Oui, puis si dans un an et demi, elle n'a pas encore de garderie, mais il faut démontrer qu'elle a donné son nom, par exemple, faut pas...
C'est ça. Là, après ça, si quelqu'un refuse une place parce que c'est trop loin, ben là, il y a des limites.
Mais là, trop loin à définir. La madame Tamo-Magny, elle a une place à Saint-Jérôme. On aura compris que ça se qualifie pas, là.
Effectivement. Donc, après ça, il y a toujours dans une politique publique, il y a toujours des modalités à préciser. Oh. Mais sur le principe de dire l'assurance parentale devrait vous couvrir jusqu'à ce que vous ayez une place subventionnée.
On n'a pas le choix, amis, que ça coûte quelque chose. Là, on ne vit pas dans le cosmos. C'est du vrai argent. Mais il faut aider pour avoir le deuxième enfant. C'est ce que tu dis. Le but du deuxième, c'est de régénérer le couple. C'est ça la fonctionnalité. Là.
C'est pas nécessairement que plus de dépenses publiques parce que, tu sais, quand on parle de fiscalité, on dit souvent qu'il faut prendre aux riches et donner aux pauvres. c'est vrai que parfois, il faut faire un peu ça. Mais moi, il y a ce que j'appelle aussi la répartition horizontale. Donc, il y a la répartition verticale des riches vers les pauvres, mais horizontale de dire ben, peut-être que les contribuables qui font le choix parfaitement légitime de ne pas avoir d'enfants, oui. peut-être que ce serait correct qu'il y ait un petit peu plus de fiscalité un peu plus lourde pour qu'on en donne un petit peu plus à ceux qui ont des enfants. Puis ceux qui ont des enfants, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Ils vont prendre soin des personnes âgées qui n'auront pas eu d'enfants.
Je comprends.
Autrement dit, oui. il y a comme une logique, là.
Mais ma réplique, Guillaume, ça serait « Ouais, ils payent déjà pour les CPE, eux autres. » Ceux qui n'ont pas d'enfants, Guillaume, on paye déjà.
Ouais.
Moi, j'en ai.
La taxe scolaire
et
tout.
Non, mais tu sais, c'est ça, Guillaume. Là. Les autres, ils vont te dire, et avec raison, « Ouais, je paye déjà. Moi, pour un CPE que j'utilise pas. »
Ouais, ouais. C'est pour ça qu'idéalement, tu sais, on passera pas à côté d'avoir un État qui se concentre sur ses missions fondamentales, qui arrête de s'éparpiller dans toutes sortes d'affaires.
Congé de taxe sur tout ce qui se rapproche des enfants. T'achètes un siège d'auto, pas de taxe. Les couches, pas de taxe. Le lait maternisé, pas de taxe.
La taxe fédérale sur les livres. Tu parles d'une connerie. Ça, au Québec, on n'a pas ça. La TVQ, elle s'applique pas aux livres. La taxe fédérale vise les livres.
Matériel scolaire, pas de taxe.
Exactement.
Comme ça arrive dans certains États américains, quand c'est le temps d'acheter des fournitures scolaires, pas de taxe. Ça,
ouais,
ça
puis la propriété, évidemment, les maisons liées à l'arrivée d'un enfant,
oui.
Tout ce qui est taxe lié aux maisons, là, ça devrait être coupé.
Il faut
là.
Détaxer, Guillaume.
Ouais,
L'État va s'arranger. On est dans une dynamique de « Hein, ils vont manquer d'argent, le gouvernement? » Non, il faut penser autrement. Il faut détaxer et le gouvernement prendra ses décisions en fonction des revenus qu'il lui reste. Mais il faut donner des breaks au monde afin que les gens prennent leur décision, le cas échéant, d'avoir plus d'enfants ou pas.
Et ouais, c'est pour ça que
faut changer le schéma de pensée, on dirait, Guillaume.
Absolument. Des fois, on pense qu'il faut couper pour avoir un surplus pour ensuite baisser les taxes, mais des fois, c'est plus l'inverse. C'est qu'on coupe,
oui.
on coupe les taxes. Là, fortement, ça va forcer l'État, les services publics à se réorganiser.
Mais c'est ça, ma mentalité.
Oui, je pense que forcément, il y a un peu de tout ça. Évidemment, il ne faut pas que ce soit trop radical, mais bien fait. Non. De manière réaliste, ça peut être intéressant. C'est pour ça que le congé de taxe de bienvenue, c'est bien, même si, à mon avis, il n'est pas assez ciblé. C'est une belle annonce. Ça prouve que la première ministre est en action, qu'elle est prête au jour 1, mais je trouve que c'est pas assez ciblé sur vraiment les gens qui veulent un deuxième, un troisième enfant, alors que c'est ça qu'il faut cibler, à mon avis.